Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Herb Dubois et c'est l'heure de l'interview avec au studio Monsieur Bernard Collignon. Bonjour.
Bonjour.
Bernard Collignon, vous êtes vice-président de Dromolib et aussi représentant de l'association Rail Dauphiné Savoie-Léman. Et nous avons également Morgane Régnier, directrice de Dromolib, basée à Cray. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ici pour parler un peu de l'actualité de Dromolib et puis des prochaines propositions qui seront mises en place. Et avant tout, peut-être, je pourrais vous demander, Morgane, de nous parler de Dromolib et de son action depuis 2014, si on peut résumer un peu ce parcours.
Donc, effectivement, merci beaucoup pour l'invitation. Et on a déjà eu la chance de venir plusieurs fois dans les studios de Radio RDI. Donc effectivement, Dromolib est une association qui existe depuis 10 ans. On les fête depuis quelques jours, depuis 2014. Donc cette association existe, elle est basée à Cray et elle a pour objet la promotion de l'écomobilité à l'échelle de toute la Drôme. Donc cela nous permet d'intervenir dans les différents territoires autour principalement de 2 volets d'activité, de l'information auprès du public et aussi de l'accompagnement avec différentes solutions de mobilité adaptée en territoire rural. Et donc pour faire tout cela, nous sommes 7 salariés basés à Cray et on dispose aussi d'un bus de la mobilité qui sillonne les vallées, qui permet d'être au plus près des habitants.
On peut peut-être aussi étendre le territoire, sur quel niveau ?
Alors effectivement, on travaille à l'échelle de toute la Drôme. Donc on travaille sur le territoire Biovallée où l'association est née, mais aussi dans le Royan-Vercors, ou territoire avec lequel on a une convention de partenariat, ou bien aussi les baronnies qui se situent au sud.
Par rapport à cette écomobilité, cela comprend divers moyens de transport. On peut peut-être les rappeler aux auditeurs et aussi oui, les modules qui sont autour de cette idée.
Voilà, donc l'idée c'est que en territoire rural, il y a peu ou pas suffisamment, on pourrait dire, de solutions de transport en commun. Donc la voiture, elle reste indispensable pour les déplacements du quotidien, pour aller faire ses courses, pour aller travailler, pour accéder aux loisirs. Mais pour autant, on s'aperçoit qu'un trajet sur deux, souvent, est quand même relativement court, fait moins de 5 km. Et ce sont des trajets sur lesquels il y a un potentiel énorme pour passer, par exemple, au vélo ou sur des trajets plus longs, faire du covoiturage ou bien réfléchir à d'autres usages de la voiture comme le partage de sa voiture, puisqu'on sait que nos voitures restent 95% du temps à l'arrêt. Donc c'est une manière de mutualiser l'usage des voitures.
À l'initiative de cette création Dromolib, peut-être que Bernard Collignon pourrait y répondre. Qu'est-ce qui a motivé, selon vous, cette création ?
Oh, la motivation, c'était surtout pour, comme le dit justement Morgane, c'était de, dans un premier temps, donner une alternative en fait au transport individuel, principalement par la voiture, et qui était plus ciblée en fait, dans un premier temps, en fait, sur le vélo. C'était dans l'esprit, effectivement, de son créateur.
On parlait de mobilité douce, hein, à ce moment-là.
De mobilité douce, effectivement, oui. Et il est vrai que il fallait, comme ce territoire qui était situé dans le cadre de la Biovallée, c'était une initiative qui avait quand même une certaine importance, hein, pour le développement, justement, comme vous l'avez dit, de cette mobilité douce.
Alors, depuis 2014, Dromolib s'est activé à propager cette notion de transport éco-citoyen, responsable. Est-ce que vous avez tressé des grandes lignes et est-ce qu'elles ont pu aboutir et avoir aussi un soutien des collectivités pour cette démarche ?
Alors oui, c'est vrai que c'est un long chemin, tout avec beaucoup de rebondissements et en tous les cas qui montrent l'intérêt des politiques pour ce sujet qui est compliqué. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup de volonté, mais il faut trouver les moyens en territoire rural pour pouvoir faire concrétiser en fait ces sujets. Et je répondrai agréablement. Dromolib était invité récemment à un colloque national, local, un colloque local de la NCT, donc organisé par la DDT, la préfecture à la Drôme, qui réunissait donc les représentants des collectivités territoriales. Et on pourrait dire que presque 80% des participants, de la centaine de participants, connaissaient Dromolib. Donc on peut, c'est là la preuve que Dromolib a mené en fait. Ses actions et les a fait connaître auprès donc des décideurs politiques. Après, la mise en œuvre en fait des actions prend du temps. On est vraiment sur de l'accompagnement au changement. C'est pratiquement aller voir les personnes les unes à la suite des autres. Donc c'est du temps long et cela nécessite effectivement un gros engagement. Mais depuis l'origine où l'association était principalement financée par des fonds européens, on a pu diversifier aujourd'hui nos financements. Et on compte des collectivités parmi nos cofinanceurs, ainsi que la région, par exemple, sur un projet d'étude d'autopartage, ou bien l'ADEME qui nous soutient à nouveau alors qu'elle avait cessé de le faire pendant quelques années.
Il y a aussi donc cet aspect également de convaincre les particuliers hein, sur l'utilisation du vélo, mais il y avait aussi une démarche, toujours aussi encore aujourd'hui, auprès des entreprises pour encourager le transport en commun, notamment avec l'autopartage par exemple. Ça aussi, ça fait partie de votre activité.
Oui, c'est ça. Nous, on cible différents publics, donc le grand public, on l'a cité, mais aussi les entreprises, les salariés, notamment par le biais de la réalisation de plans de mobilité entreprise qui permet d'étudier les flux domicile-travail et ensuite d'identifier un plan d'action pour réduire, ou en tout cas, plutôt que de réduire la place de la voiture, je dirais plutôt faciliter les autres mobilités, parce que bien souvent, les salariés ou les habitants souhaitent changer de mobilité, mais n'ont pas les moyens ou il leur manque des éléments pour faciliter cette transition. Donc ça peut passer par la mise en place d'un accès ou d'un stationnement sécurisé, protégé de la pluie, la possibilité de recharger sa batterie, la possibilité de prendre une douche en arrivant. Donc tout un certain nombre d'actions qui vont inciter le salarié, ou bien comme la mise en place de forfaits mobilité. L'Herdier du Diwan est un très bon exemple pour inciter les personnes à se déplacer autrement qu'en voiture pour les déplacements du quotidien.
Depuis 2014, donc, et de cette notion auprès des entreprises, est-ce qu'il y a eu un écho réel de celle-ci sur cette mobilité ?
Oui, elle existe, mais elle est à renforcer. C'est vrai que les entreprises ont souvent d'autres priorités. La mobilité est un sujet, mais qu'il faut prioriser. Donc voilà, certaines entreprises nous sollicitent pour intervenir. On fait par exemple des formations à l'éco-conduite former, donc en lien avec un moniteur auto-école, quand on n'a pas le choix d'utiliser sa voiture, comment on fait pour avoir les bons gestes qui permettent de conduire, qui permettent de réduire la consommation de carburant et donc de faire à la fois des économies pour son portefeuille, mais aussi des réductions d'émissions de gaz à effet de serre.
Il y a également le transport en commun qui est pris en compte aussi.
Oui, bien sûr, ça reste l'artère principale et ça pourra faire le lien aussi avec Bernard sur les actions autour du train, notre colonne vertébrale que constitue la ligne de train Romans-Vennes. Qui ensuite voit le réseau des autobus en rabattement autour de cette ligne et en lien avec Valence et les principaux axes. Le maillage existe, mais il n'est pas suffisant, il ne pourra jamais l'être. Hein, on n'est pas dans une grosse agglomération, donc il faut trouver des alternatives complémentaires. Donc le stop en fait partie, le covoiturage en fait partie aussi.
Bernard Collignon, justement, vous êtes au sein de l'association Rail Dauphiné Savoie-Léman. Donc, ça leur regroupe une grande partie géographique. Est-ce que pour vous, est-ce que vous pourriez nous décrire justement cette l'action de cette association ?
Oui, alors, comme l'a bien dit Morgane, là, nous développons donc au sein de Dromolib. Là, j'ai deux casquettes, hein, Dromolib en tant que vice-président et en même temps représentant de cette association d'usagers. Je tiens d'abord à vous préciser que dans le cadre de cette organisation en fait, de transport alternatif en fait, à la voiture, nous avions élaboré en 2019 déjà un projet de création de trains supplémentaires sur la ligne entre Romandie, Luc Andivois. Nous avions soumis effectivement ce projet à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et malheureusement, celle-ci n'a pas donné suite pour des raisons telles que le coût du financement, hein, sachant que pour elle, un aller-retour annuel du lundi au vendredi d'un train entre Romans et Die coûterait 430 000 euros pour l'année. Et d'autre part aussi avec l'autre argument qui était l'insuffisance de matériel ou le manque de matériel. Voilà, donc pour ce côté-là, ce projet que nous avions mis en route, bon pour l'instant il est en stand-by. Hein. Voilà ce qu'il en est. Sachant qu'on est aussi sur une ligne, une voie ferrée, qui est partagé entre les deux régions, parce qu'il faut savoir en fait que les TER qui circulent actuellement, les quatre allers-retours, sont organisés par la région PACA, qui a pour principal objectif en fait d'assurer des liaisons avec les TGV, principalement. Ça sert aussi en même temps pour les usagers de la vallée, hein, les trains du matin, les trains du soir, mais cet objectif reste quand même, au vu du nombre de trains, nettement insuffisant. On aura l'occasion d'en reparler par rapport à un avenir. Là.
Justement, la région, on en parlerait avec ce comité de mobilité partenaires régionaux. Alors ça, c'est un module proposé par la région. En quoi amènera-t-il des nouveautés ?
Voilà, alors, bon, je vais quand même rappeler un peu en ce qui concerne, c'est la région, en fait, qui a l'organisation de tous les transports collectifs, à savoir les TER et les autocars. Donc là, récemment, la région Auvergne-Rhône-Alpes a porté à notre connaissance un changement d'organisation du dispositif de concertation qui traite des transports assurés par la région, c'est-à-dire les TER, les cars interurbains, ainsi que les réseaux urbains dans certaines villes. Alors, jusqu'à présent, elle organisait en fait des comités de concertation deux fois par an. Premièrement, avec des comités techniques, ça s'appelle des COTEC, avec des associations d'usagers, tous les printemps et sur des secteurs déterminés. Pour nous, ça concernait en fait le secteur Vallée du Rhône Sud. Qui comprenait en fait le secteur de la vallée du Rhône, de Pierrelatte jusqu'à Lyon, et également la vallée de la Drôme. Et en même temps, en fin d'année, il y avait le comité de mobilité où en fait il y avait tous les autres partenaires, en fait, les acteurs socio-économiques, les institutionnels, les associations d'usagers. Les professionnels du transport étaient invités, effectivement, à faire le point chaque année. Donc, à partir du mois de novembre de 2024, l'organisation de la concertation a complètement changé. Donc, fini les COTEC et les COMOB, place aux CPR et CPL. Qu'est-ce que les CPR et CPL ? C'est-à-dire que la concertation régionale va désormais s'appuyer sur deux nouvelles instances. Les comités de partenaires régionaux, les CPR, et les comités des partenaires locaux. Alors, les CPR se tiendront à l'automne et les CPL au printemps, comme les ex-COTEC. Au niveau des représentations de ces deux instances, donc, elles seront représentées par les associations d'usagers, les syndicats de salariés, des organisations professionnelles d'employeurs, les collectivités territoriales. Et pour les CPR, il y aura 4 citoyens qui seront tirés au sort. Et pour les CPL, 2 citoyens tirés au sort. En ce qui concerne la répartition territoriale, ça c'est quand même assez important, puisque il va y avoir des nouveautés. Les CPR, il va y avoir un regroupement en fait des comités régionaux, c'est-à-dire dans des grands bassins. Alpes Nord, Alpes Sud, Auvergne, Vallée du Rhône Nord, Vallée du Rhône Sud. Et en ce qui concerne les CPL, les comités de partenaires locaux, c'est un découpage local en 30 secteurs. En 30 secteurs qui vont se répartir au sein en fait, de ces grands bassins régionaux. En ce qui nous concerne, pour la Drôme, il y aura un secteur Drôme Nord, Drôme Est et Drôme Sud. Et pour en terminer, je dois vous dire que ces secteurs-là, Drôme Est, dont fait partie le Diois, va comprendre donc la communauté de communes du Diois et la communauté de communes, la 3CPS, créée du pays de Saillant. Celle du Nord comprendra la communauté du Vercors et du Royan, et celle du Sud, la communauté des Baronnies et du pays de Nyons. Voilà. En gros, comment ça va fonctionner? Et en ce qui concerne les CPL, pour en terminer en fait sur cette nouvelle organisation, donc elles auront l'occasion en fait de discuter sur les réseaux locaux gérés par la région, ainsi que sur les spécificités locales de chaque secteur pour les transports régionaux. Voilà. Et donc elles seront mises en place sur les EPCI, les intercommunalités, ayant transféré leurs compétences mobilité. Parce qu'il faut savoir que certaines EPCI ont gardé des compétences mobilité. Et pour en terminer, je dois vous dire que, par exemple, la communauté de communes du Val-de-Drôme n'est pas intégrée à cette CPL, puisqu'elle a conservé sa compétence mobilité. Voilà en gros l'organisation qui sera mise en place, principalement pour les CPL, à partir du printemps prochain.
Morgane Régnier, je reviens vers vous par rapport aussi à cette notion d'économie sociale et solidaire dont vous vous engagez avec Dromolib. Est-ce que vous avez un certain résultat auprès du public de ces possibilités de mobilité?
Déjà, je voulais féliciter Bernard pour son exposé parce que c'était très clair et c'est vrai que c'est un point important. De compréhension pour réagir avec la région et pouvoir contribuer. Donc après, sur nos impacts d'accompagnement au changement, c'est vrai que c'est difficile à évaluer puisqu'on est sur du changement de pratique. Donc il faut être capable d'identifier comment les gens se déplacent aujourd'hui et comment avant aujourd'hui et demain. Donc on arrive à le mesurer sur la mise à disposition des vélos. Qui montre qu'effectivement la mise à disposition d'un vélo donc qui permet aux gens de tester si ça correspond à un besoin débouche à près de 75% à un développement de la pratique du vélo et souvent les freins sont le coût de l'achat d'un vélo électrique qui vont limiter en fait le changement de comportement. Après, les autres impacts sont plus difficiles à mesurer, mais juste ce qu'on peut observer, c'est qu'on l'équipe grandit, ce qui montre qu'effectivement, on mène de plus en plus d'actions et sur des actions qui évoluent de plus en plus vers de la mobilité solidaire. Là où, à l'origine, Dromolib était vraiment sur de l'écomobilité tout public, on travaille de plus en plus avec d'autres acteurs associatifs comme Mobilité 0726 ou la plateforme Emploi, qui travaillent sur de la mobilité insertion professionnelle. Et donc, on travaille de plus en plus en complémentarité pour apporter des solutions faciliter l'accès aux droits fondamentaux. Donc, je l'évoquais à un moment donné, le droit d'accès au logement, pouvoir faire ses courses, pouvoir... pouvoir se travailler. Donc tous ces droits, l'accès à ces droits, ça nécessite de pouvoir se déplacer. Donc on intervient de plus en plus sur ce domaine-là, et notamment souvent sur prescription de partenaires comme France Travail, des centres sociaux, des centres médico-sociaux, ou des structures en insertion. Voilà pour vous donner un peu une illustration sur l'évolution de notre association.
Sur votre site internet, vous indiquez aussi d'être un réseau qui fédère plus de 200 partenaires. Hein. On peut considérer les collectivités, les associations, des entreprises, des organismes publics. Est-ce que cela va en s'amplifiant à l'heure actuelle ?
On constate, oui, la création aussi de nouvelles structures, par exemple... j'ai un peu de mémoire, mais ça va me revenir. Une association qui s'appelle Station V, qui s'est créée sur l'accompagnement au vélo dans le Nord. On a d'autres structures, des espaces de vie sociaux, en fait, qui s'intéressent de plus en plus à la mobilité. Donc on voit effectivement la création d'associations qui s'emparent, en fait, sur des initiatives, où je pense aussi à Biclou, sur Lille, sur la possibilité de transporter des personnes sur des tricycles, faire du transport de personnes. Donc on observe, oui, une augmentation des acteurs, et à cet endroit-là, Dromoli propose de jouer un rôle pour faciliter les partages de connaissances et retours d'expérience. Et l'année dernière, on a travaillé avec plusieurs acteurs. Donc il y avait des communautés de communes, donc les Baronnies, Dieulfit-Bourdeaux, mais aussi le centre social La Paz à Nyons. Et on a pu comme ça travailler sur l'élaboration d'une charte du réseau des acteurs de la mobilité, identifier des intentions et donc des engagements pour favoriser la coopération entre les acteurs et faire en sorte que les actions soient plus faciles à mettre en place.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA,
la radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Est-ce qu'il y aurait en quelque sorte une vitrine de ce qui se fait de mieux au niveau de la Drôme pour cet aspect du transport, de cette mobilité ?
Alors, merci pour la question. On avait travaillé en 2018 sur l'élaboration d'une plateforme qui s'appelle drome-écomobilité.fr, donc elle date un peu. Et donc, on est en train d'obtenir des financements, je dirais, on est plutôt en bonne phase, des financements avec donc le fonds vert et des fonds européens pour mettre à jour en fait cet outil et simplifier l'accès à l'information sur les solutions pour se déplacer. Donc cette vitrine est à améliorer. Mais elle existe, et puis Dromolib tient un observatoire de la mobilité et des acteurs de la mobilité. Donc on a beaucoup d'informations sur notre site internet, et puis on est aussi accessible, alors soit à Cray quand les gens sont à côté, sur notre site internet ou par téléphone.
Il y a également, vous parliez de ces vélos électriques, hein, qui permet aussi à un plus grand nombre peut-être d'adopter ce mode de transport. Il existe également des entreprises, hein, j'en ai interviewé une cet été, qui permet d'électrifier des vélos anciens.
Oui.
D'où ça, ce sont des facteurs que vous encouragez également sur le territoire ?
Oui, tout à fait. Quand l'achat d'un vélo électrique est trop coûteux, il y a la possibilité d'électrifier son vélo. Et donc, alors, je sais pas moi la spécialiste, donc je ne pourrais pas répondre techniquement apporter une réponse technique, mais en interne, on propose cet accompagnement et on se met en lien avec des entreprises qui le pratiquent. Et on a par ailleurs des collectivités comme celle du Crétois Pays de Saillant qui proposent des aides financières pour l'électrification de leurs vélos.
Je reviens de nouveau un peu sur certains modules, hein, qui sont mis en place, notamment depuis octobre. On peut parler de Vélo Ego, qui est lancé sur le territoire national et dont Dromolib est un des éléments. Alors, comment se présente ?
Oui, alors Vélo Ego fait partie des nouveaux programmes dont j'évoquais tout à l'heure que Dromolib s'orientait de plus en plus sur de l'accompagnement, sur la mobilité solidaire. Donc c'est un programme national qui est porté par la FUB, donc la Fédération des usagers de la bicyclette, C'est un programme de certificat d'économie d'énergie et il vise à équiper en fait des personnes de vélos, donc des personnes qui sont orientées par, donc comme je l'évoquais, des centres sociaux, des prescripteurs, pour favoriser donc l'accès au vélo à toutes ces personnes. En favoriser cet accès passe par un entretien individuel et aussi des séances de vélo-école pour avoir soit une mise à jour de la pratique du vélo, du code de la route, de certaines règles de la pratique, évidemment, s'il y a des besoins, mais aussi des ateliers pour apprendre à réparer son vélo. Donc pour faire cela, donc Dromolib, on est coordinateur de ce programme et ensuite on va nous-mêmes renvoyer vers d'autres acteurs du département de la Drôme pour mettre en œuvre ces prestations, soit de vélo-école, soit de mécanique vélo. Donc ce programme va permettre non seulement d'accompagner environ 500 personnes d'ici 2026, mais aussi d'amener de l'activité à des acteurs locaux, des entrepreneurs qui lui portent ces services-là. Donc c'est mon collègue Laurent Ouattine et ma collègue Mike Fink qui le gèrent et qui sont mis en lien directement à l'échelle de la Drôme avec ces structures.
Bernard Collignon, vous avez peut-être un mot à rajouter sur cet aspect aussi de considération hein, de l'État aussi, un soutien sur cet aspect.
Oui, je reviendrai plutôt moi sur le développement en fait de la pratique en fait du vélo. Il est vrai que dans certains coins du territoire, la vallée de la Drôme, l'usage du vélo en remplacement de, disons la voiture, principalement sur des petits parcours de 5 km. Est quand même peut-être plus favorisé de par la nature, des voies routières et en même temps géographiques. Alors il est certain, si on se place au niveau du Diois, il y a quand même des difficultés à l'usage quotidien du vélo par, en fait, certaines difficultés dues à l'absence en fait, de pistes cyclables. Et ça, on a eu l'occasion d'en parler lors des réunions que nous avions eues avec la communauté de communes du Diois, la ville de Die et le département pour l'aménagement de ces pistes cyclables, qui représentent quand même une difficulté assez importante, surtout sur des parcours tels qu'entre Ponté, Sainte-Croix et Die, et même au-delà, en montant sur Luc en Diois ou Châtillon.
Sur la route départementale.
Sur
notamment.
La route départementale, principalement, avec cet aménagement. Alors, effectivement, il est assez difficile d'aménager, compte tenu, en fait, du relief, hein, des pistes cyclables. Ça représente un coût non négligeable. C'est principalement à la charge du département, qui, lui, part du principe qu'il veut bien faire des travaux, mais à condition de connaître préalablement le nombre de personnes qui utilisent le vélo. Or, je pense que il faut voir un autre aspect. C'est à lui de prendre l'initiative, en fait, de faire des pistes cyclables. Et c'est là, à partir de ce moment-là, où il y aura des gens qui rouleront en toute sécurité et qui prendront le vélo à la place de leur véhicule.
C'est un peu une question du serpent qui se mord la queue, en quelque sorte.
Exactement, c'est ça. Alors, il y a bien quelques circuits alternatifs en prenant dans certains villages, certaines pistes et tout. Mais je veux dire que pour avoir réellement, un transfert de certains automobilistes sur le vélo, il faut que les pistes soient près de la voie routière principale, hein, je veux dire, et qu'elle soit fortement sécurisée.
Il y a aussi un autre aspect, c'est l'autopartage. Hein. Ça permettrait justement de réduire ces emprunts de cette route départementale avec peut-être moins de véhicules motorisés. Est-ce que pour vous, c'est un travail, et notamment avec aussi, depuis le 14 octobre, ce lancement officiel du collectif de l'autopartage entre particuliers. Alors, est-ce que ça, c'est une idée que vous abordez actuellement ?
Oui, c'est un sujet que l'autopartage d'Andromolib s'est emparé déjà depuis quelques années. Ça avait commencé par l'élaboration d'une étude pour vérifier l'intérêt et l'utilité, enfin la faisabilité en fait du développement de ces projets. La difficulté en effet de trouver comment en territoire rural cela peut fonctionner. Donc il y a beaucoup d'initiatives, une belle dynamique de personnes qui s'organisent soit entre voisins pour partager un véhicule, soit qui s'organisent en association pour formaliser les prêts, les mises à disposition des vélos, des voitures pardon, et puis les coûts en fait d'effraiement. Et Dromolib est aussi impliqué donc au niveau national sur un centre de ressources de l'autopartage entre particuliers qui s'appelle les clés de l'autopartage, de manière à référencer donc avec Mobicop et d'autres partenaires toutes les solutions pour faciliter justement toutes les ressources et les solutions pour faciliter les personnes à s'emparer de cette solution. Et les informer aussi, donc des webinaires sont régulièrement proposés. On retrouve les informations et l'actualité sur notre site internet. On a un programme aussi de financement qui nous permet d'accompagner des groupes qui souhaiteraient, qui auraient besoin d'aide pour mettre en application, en tout cas lancer cette initiative. On mène aussi une étude à l'échelle de la Drôme pour justement, en lien avec les collectivités, identifier comment, quelles solutions d'autopartage pourraient se déployer pour réduire le nombre de voitures qui dorment et qui nous attendent et faire qu'on puisse utiliser une voiture uniquement, en tout cas ne payer une voiture que lorsqu'on l'utilise. On réfléchit aussi à dans ce sens-là, une coopérative d'autopartage pour vraiment réduire au maximum les coûts en réfléchissant un peu à des notions soit de voiture en indivision ou de copropriété de véhicules pour vraiment l'objectif c'est de réduire les coûts, ça coûte tellement cher d'avoir une voiture et ça pollue tellement qu'il y a vraiment un gros enjeu, un gros levier à cet endroit-là.
Bernard Collignon, je reviens aussi sur cet aspect du financement qui émane de l'Europe. Est-ce qu'il en est aussi de l'État français et dans quelle mesure? Et est-ce que justement là, ces coupes budgétaires dont on entend parler depuis quelques semaines impactent aussi cette initiative sur cette mobilité?
Oui, alors il est vrai que la réduction drastique des coûts que veut instituer en fait l'État dans différents domaines peut nous inquiéter effectivement pour la mise en route de ces nouvelles mobilités, hein, ça y est certain. Alternativement, en ce qui concerne, moi je reviendrai en fait en ce qui concerne les transports collectifs. Les financements, ils sont pas directement de l'État, puisque ce sont les régions en fait qui financent en fait les transports collectifs, hein, tels que les TER et les autocars. Mais il est certain que là, il y a un besoin assez important de financement en fait de ces transports. Or, on a constaté que les budgets étaient réduits ou étaient, disons, absents sur une vue, disons, à une échelle à moyen terme. Ce qui veut dire que, en ce qui concerne les trains, les TER, il faut dire que les régions ont renouvelé une partie du matériel. Mais là, nous allons être confrontés sous peu, disons, à des matériels qui ont pour la plupart plus de 20 ans d'âge, qui fonctionnent au diesel. Maintenant, il faut des matériels propres. On le voit, ça commence avec des autocars qui fonctionnent soit sur batterie. Même la région a présenté là... quelques autocars qui fonctionnent à l'hydrogène. Et sachant en fait qu'il faut installer des stations hydrogène, le coût que représente en fait la création de ces stations hydrogène, pour l'instant il n'y en a qu'une dans la vallée du Rhône.
Puis ça nécessite une réduction de ce matériel, parce que c'est énorme, je pense,
oui,
hein,
tout à fait.
Structure.
Voilà, donc en ce qui concerne aussi, c'est vrai, le matériel ferroviaire aussi, ça, c'est assez important. Sachant que je prends l'exemple sur la ligne, hein, les autorails qui circulent actuellement, ils vont venir en fin d'utilisation en 2029. Et pour l'instant, que ce soit la région Auvergne-Rhône-Alpes que la région PACA, n'ont pas commandé en fait de matériel compatible avec sur nos voies non électrifiées. Il peut exister en fait des nouveaux matériels qui peuvent fonctionner à batterie. Pour l'instant, ils sont en étude. Voilà, la question peut se poser là, à ce niveau.
Malgré le contexte, Morgane, vous pensez plutôt être optimiste sur ce développement ?
C'est difficile à dire, je dirais. La difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à avoir de visibilité. On a des budgets prévisionnels qui changent en permanence et de plus en plus. Donc c'est plutôt ce qui est difficile. Et donc le fait de ne pas avoir de visibilité, complique effectivement l'organisation du travail et puis l'implication aussi quand on n'est pas certain qu'une action va durer dans le temps. Et donc voilà, ça nécessite beaucoup de temps et de jongler avec beaucoup de financements différents. Donc le contexte national, comme le rappelait très justement Bernard, est complexe et n'est pas rassurant. Pour autant, Dromolib rencontre des difficultés comme toutes les structures, mais réussit à maintenir la tête hors de l'eau, je dirais, pour mener ses actions. On a des bonnes relations de confiance et de partenariat avec beaucoup d'acteurs qui ont vu le sérieux de notre association. Après, il faut encore en avoir les moyens et c'est vrai que c'est pas toujours facile.
À l'avenir, dans les prochaines semaines, des rendez-vous pris avec le public et organisés par Dromolib.
Effectivement, on a un temps fort qui s'organise lundi 25 novembre de midi à 17h, donc dans la commune de Oust, Ce sont les rencontres de l'écomobilité en Drôme. Dromolib, depuis bien 7 ans, organise tous les ans des rencontres entre tous les acteurs de la Drôme, donc des acteurs représentant des collectivités, mais aussi des associations, des entreprises sont invités et les bienvenus. Et à cette occasion, à l'occasion de ce rendez-vous, on va pouvoir échanger sur les actualités, les nouveaux projets, et puis avancer ensemble. On aura aussi la chance d'avoir une voiture Wiz, qui est un véhicule intermédiaire, qui sera mis à disposition de nos adhérents donc sur toute la Drôme. Donc on va lui faire un tour pour pouvoir tester en fait ce type de véhicule entre le vélo et la voiture, entre le vélo qui est tout léger et la voiture qui pèse près de 2 tonnes aujourd'hui. Il y a toute une gamme de véhicules intermédiaires qui peuvent être aussi des solutions. Et donc on invite les habitants à se questionner et donc à tester ce véhicule. À l'occasion à la fois de le voir et puis de pouvoir le réserver pour l'utiliser chez lui jusqu'au 9 décembre.
Dromolib est basé à Cray. Est-ce qu'il existe divers points d'échange sur d'autres lieux que Cray ?
Alors c'est l'objet un peu du travail qu'on mène autour de la fédération d'un réseau. Dans l'idée pour nous de soutenir des associations ou des structures qui existent parfois depuis bien plus longtemps que Dromolib, qui se sont emparées des sujets de mobilité et qui auraient besoin d'outils, soit pédagogiques, de guides, de livrets ou de ressources numériques. Donc on est en train de formaliser ce réseau, le programme Vélo Ego dont on parlait tout à l'heure avec des prescripteurs et des prestataires va venir aussi renforcer ses antennes. Donc aujourd'hui, je dirais, c'est Dromolib est à Cray et puis via son bus de la mobilité et s'appuie sur un certain nombre de partenaires voilà, qui, je dirais, porte les mêmes valeurs et les mêmes messages d'une écomobilité du quotidien.
Il existe donc un site internet de Dromolib, hein, vous pouvez y trouver
exactement
toutes les données, les contacts possibles également. Une dernière question à M. Collignon, notamment sur l'association Rail Dauphiné Savoie-Léman. Est-ce que pour vous, c'est une problématique qu'on retrouve sur tout ce secteur géographique également ?
Oui, ce que je veux souligner aussi de mon implication dans Dromolib, aussi en tant que représentant de cette association d'usagers pour la Drôme et les Hautes-Alpes, c'est que finalement, nous œuvrons en fait pour une autre mobilité, hein, alternative à la voiture. Et en tant que représentant de cette association d'usagers, principalement pour les transports collectifs et tout, nous avons une vision globale en fait de ces transports, hein. Et c'est pour cette raison que aussi bien une personne qui va utiliser son vélo aura l'occasion de prendre le train. D'un autre côté, aussi un usager du train pourra utiliser un vélo, pourra utiliser un véhicule en autopartage. Donc, tout est lié, finalement, hein, dans ce cadre-là.
Morgane Régnier et Bernard Collignon, je vous remercie tous deux d'être venus sur RDIWA pour nous parler donc de l'actualité de Dromolib et de ses prochains rendez-vous, notamment celui du 25 novembre à Oust. Et je vous souhaite une bonne soirée à vous.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.